Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Clotilde Dussoulier, qui est coach, autrice, mais aussi l'hôte du podcast de développement personnel Change ma vie. On retrace ensemble son parcours depuis ses études d'ingénieur jusqu'au début de sa carrière dans la Silicon Valley, avant de devenir l'une des toutes premières blogueuses cuisine aux US avec son blog Chocolate and Zucchini. 15 ans plus tard et de nombreux livres de cuisine à son actif, Clotilde finit par se tourner vers le coaching et utilise son podcast « Change ma vie » pour partager ses trouvailles en développement personnel. Son podcast est aujourd'hui très régulièrement au top des classements d'Apple Podcasts. Elle est devenue coach à plein temps et elle raconte le cheminement qui l'a amené à ce changement de carrière. Un grand merci à Clotilde pour ce moment passé ensemble. J'espère que cet entretien vous plaira. On est Clotilde Dussoulier. Salut Clotilde.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, très bien. Clotilde, comment est-ce qu'on pourrait te définir aujourd'hui? Est-ce que tu te définis comme podcasteuse? Et puis, tu es aussi coach, c'est ça? Tu as une activité comme ça?
Oui, c'est ça. Donc, je suis master coach certifiée. C'est ça mon métier et mon activité principale. Et j'ai créé autour de cette activité de coaching un podcast qui s'appelle « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Qui est donc un podcast sur lequel je diffuse un certain nombre des outils de développement personnel et de coaching que j'utilise pour mes clientes.
D'accord. Et mes clients. Et donc, tu as créé le podcast avant de te lancer comme coach ou vraiment dans la foulée?
Alors, en fait, ce sont deux initiatives qui étaient liées. C'est-à-dire que j'ai lancé ce podcast en 2017 dans l'idée que, voilà, ce métier de coach m'intéressait. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer à partager ça. Et donc, dans le même temps, j'ai commencé à coacher des gens. Et ensuite, j'ai passé une certification de coach pour commencer et puis de master coach ensuite.
On va reparler de tout ça après. Tu as un parcours qui est très varié d'après ce que j'ai pu voir sur Internet. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Clotilde, quand elle avait 7-8 ans?
Alors, Clotilde a 7-8 ans. Donc, 7-8 ans, ça me met en CE1, CE2, quelque chose comme ça. Donc, c'est marrant parce que c'est l'âge de mon fils aîné. Donc, c'est rigolo d'imaginer le parallèle. Alors, j'étais une enfant, je me posais énormément de questions. Je me suis toujours posé énormément de questions. Et je me sentais assez différente des autres. J'étais, je pense, une enfant précoce, même si c'était pas comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Mais j'étais beaucoup dans le monde des adultes. Je réfléchissais à plein de trucs, je m'intéressais beaucoup aux choses et je me sentais assez en décalage en fait avec les enfants de mon âge. Et donc en fait j'ai une enfance qui est tout à fait heureuse parce que j'ai grandi dans une famille tout à fait équilibrée, aimante et tout ça. Mais dans mes souvenirs d'enfance, il y a beaucoup cette impression d'être seule dans ma tête en fait. Et c'est un peu ça qui m'a suivie pendant. Voilà, moi j'ai 41 ans maintenant, mais en tout cas, j'ai fini par trouver des réponses à mes questions, mais finalement assez tard dans ma vie.
J'allais te dire justement, tu avais la sensation de poser des questions auxquelles on t'offrait jamais de réponse, c'est ça?
Alors en fait, j'en arrivais même pas au stade où je posais les questions parce que je me rendais très bien compte que tu sais, quand on est enfant, on a une communication qui est quand même assez fine et on se rend bien compte des questions qu'on peut poser et des questions qu'on peut pas poser. Et en fait, quand autour de toi, les gens ne se posent même pas le début du commencement des mêmes questions que toi, tu dis, alors en fait, je vais en parler à personne parce que je pense que je sais même pas comment en parler, en fait. J'avais pas les mots pour discuter de ça.
OK. Et donc, t'as pas, enfin, j'imagine, 40 ans, j'imagine pas de parcours de psy, pas de parcours de juste toi tout seul.
Alors, si, justement, bah, en fait, à trois moments dans ma vie, donc en gros à 15 ans, 25 ans, 35 ans, c'est bizarre que ce soit tous les 10 ans, on verra à 45 ans, hein, mais j'ai d'autres outils maintenant, j'ai atteint des stades dans ma vie où en fait je me rendais compte que je n'arrivais plus à avancer avec les moyens du bord. Et donc j'ai eu besoin de demander de l'aide à l'extérieur de moi et à l'extérieur de ma famille. À 15 ans et à 25 ans, c'était pas génial. À 35 ans, par contre, je suis tombée sur quelqu'un qui a beaucoup mieux su répondre à mes questions. Néanmoins, en fait, ce qui était très problématique pour moi dans ces démarches de psy, c'est que c'était très axé sur le rétroviseur. C'était beaucoup axé sur le passé, ce qui m'était arrivé, ce que j'avais pensé, etc. Et que je n'y trouvais jamais les clés pour faire autrement pour la suite. Et c'est vraiment pour moi, c'est ça que le coaching a complètement débloqué. C'est le fait de se dire, oui, je peux m'intéresser à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai compris, à ce qu'on m'a dit, etc. Mais pour y trouver l'élan et le fond de la piscine pour rebondir et inventer la suite. Parce que sinon, si c'est juste reproduire ad vitam aeternam les schémas, alors que certes on connaît bien, mais dont on ne veut plus, j'aimais pas trop cette condamnation à faire tout le temps la même chose en étant conscient de le faire.
D'accord. Et pour revenir un petit peu à ce qui t'amène, parce que j'aime bien avoir un côté chronologique, si tu veux, dans mes interviews, mais ce qui t'amène à 15 ans à aller voir une psy ou un psy, sans forcément rentrer dans ta vie privée, si tu veux, mais est-ce qu'il y a un déclencheur à un moment donné qui te fait dire « Ok, c'est le moment d'aller chercher de l'aide ailleurs », c'est ça ?
Oui. Alors, à 15 ans, ça s'est manifesté parce que j'avais… Donc moi, j'ai sauté une classe, j'avais un an d'avance. Et par ailleurs, en plus de cette année d'avance, j'étais pas grande, j'avais encore un corps très enfant, et il semblait qu'il y avait quelque chose qui se déclenchait pas pour moi. Et à 15 ans, quand tu as, en gros, ta puberté qui se déclenche pas, alors qu'en plus t'es un an de moins que les autres, c'est une source de, voilà. Déjà, je me sentais différente à l'intérieur, en plus je me sentais différente à l'extérieur, donc c'était un peu le cocktail explosif, et donc, mes parents m'avaient dit, je pense que ce serait peut-être pas mal d'aller voir un psy, tout ça. À 25 ans, c'était pour des histoires de rapport avec la nourriture. Et donc, pareil, tu vois, encore un truc autour du corps. Et à 35 ans, c'était plus suite à la naissance de mon deuxième enfant. J'ai eu une deuxième grossesse assez compliquée. Et à la suite de sa naissance, j'ai eu une espèce de dépressurisation où tout était d'un coup très compliqué. Et donc, voilà. Donc, c'est marrant parce que souvent des choses où finalement, c'est le corps qui, il y a le corps qui traduit quelque chose qui
le
se passe pas
appelle.
Bien à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça.
Si j'ai bien compris, t'as une formation d'ingénieur, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc moi je suis d'une famille d'ingénieurs, mes deux parents les mines et l'aérospatiale. Et en fait, je me destinais pas forcément à ça, mais j'ai eu mon bac en 96 et donc c'était vraiment les balbutiements d'internet, on commençait tout juste à avoir une connexion par modem, tout ça, et en fait, je me disais il y a un truc autour de cette histoire d'internet qui va se passer et il se trouve que j'ai rencontré à ce moment-là le petit ami qui est devenu mon mari, qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Mon père était très intéressé par l'informatique et donc je me suis dit ça m'intéresse beaucoup. J'avais un esprit assez scientifique. Et la programmation, comprendre comment fonctionnent les choses, c'était intellectuellement très stimulant et c'était un domaine qui était en plein essor, enthousiasmant. Je me suis pas complètement trompée sur le fait que c'est devenu un truc. Voilà.
Donc ouais, tu te lances dans une formation, c'est ça, de développeuse
d'informatique de gestion, ouais, c'est okay. Ça. Donc c'est une formation d'ingénieur en informatique qui est destinée à créer des systèmes d'information pour les domaines banque, assurance, finance. Ce qui n'était pas forcément ma tasse de thé. Moi, je suis allée bosser dans des startups après, mais voilà, c'était ça les formations qui existaient à l'époque.
D'accord. Donc tu sors de là. Alors à peu près début des années 2000, j'imagine.
J'ai fini mes études en 2000. Donc je suis sortie, major de promo, tout ça, c'était super. Et en fait, c'était le boom des dotcom en Californie. Et donc avec mon copain, donc Maxence, on s'est dit on va aller faire nos stages de fin d'études là-bas. Donc j'ai trouvé un stage dans une start-up de la Silicon Valley. On a pris nos affaires, on est allé s'installer là-bas. Donc c'était un stage de 6 mois à l'issue duquel je me suis fait embaucher. Donc mon compagnon aussi, et puis on est resté deux ans là-bas, donc deux années très très fondatrices, parce que je pense que quand on a 20-22 ans, les premières années de de vraie indépendance. Et en plus, en Californie, voilà, c'était vraiment les années qui ont forgé, je pense, mon impression que tout est vraiment, que tout est possible, en fait.
Qu'est-ce qui vous donne envie?
Il suffit de...
Oui, pardon. Qu'est-ce qui vous donne envie à l'époque de vous dire tous les deux, bon, ok, on est en couple, vas-y, viens, on décide d'aller tenter notre chance et notre stage aux États-Unis, c'est quand même un autre monde, quoi.
Alors, donc ça faisait 4 ans hein, qu'on était ensemble. À l'époque, on s'est rencontrés très jeunes. Donc déjà, le fait de partir à deux, c'était pas vraiment un sujet parce qu'on était déjà dans la même équipe depuis un bout de temps. Et en fait, bah, on se disait, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Donc, allons-y. Et en fait, bah, on était aussi dans un domaine dans lequel on savait que dans la Silicon Valley ils cherchaient beaucoup de il y avait un vrai déficit d'ingénieurs donc on s'est dit go. En fait ça reflète un peu cette idée que en fait si on arrive à l'imaginer on arrive à imaginer un plan pour faire les choses et ben après faut dérouler quoi. Et bon bah tu trouves une liste d'entreprises de la Silicon Valley qui ont l'air d'être des startups, t'envoies autant de mails que d'entreprises et puis tu finis par avoir un retour ou pas de retour, t'as un entretien téléphonique, on te dit OK très bien, tu trouves un visa, tu trouves un appart, enfin je veux dire c'est qu'une succession d'actions à partir du moment où t'as la vision et où tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire et après tout pourquoi pas moi, bah tu te dis bah pourquoi pas moi et on y va.
Non, je comprends. C'était juste intéressant de se dire, OK, 20 ans plus tard, aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est la Silicon Valley, que c'est là-bas que tout se passe, en fait. Et à l'époque, effectivement, c'était vraiment la bulle, enfin, l'explosion des dot-com, comme tu dis, des startups, etc. Mais, bon, moi, pour l'avoir vécu, si tu veux, j'avais la sensation que c'était loin. C'était vraiment une autre planète, quoi, tu vois, et que j'ai jamais eu cette sensation-là de me dire, OK, je vais aller vivre là-bas. Je me demandais un petit peu quel avait été ton déclic ou votre déclic à tous les deux pour vous dire, bah, en fait, c'est là-bas qu'il faut aller, quoi. C'est assez fascinant de mon point de vue.
On hésitait avec Tokyo et on s'est dit c'est Tokyo ou San Francisco. Et en fait, bon, il se trouve que je parle pas japonais, ni l'un ni l'autre ne parlons japonais, alors que je parle anglais couramment. Donc, du coup, ça paraissait. Au contraire, en fait, San Francisco, ça me paraissait moins le beau du monde que Tokyo, comparativement.
D'accord. L'étape d'après, si je me trompe pas dans ton histoire, c'est que tu travailles toi pendant quelques années là-bas à la Silicon Valley et en fait tu lances ce qui va devenir ton blog cuisine qui existe toujours aujourd'hui. Donc tu fais partie des toutes premières blogueuses, je pense en France à l'époque et encore plus des blogueuses cuisine. Tu lances chocolat et zucchini, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Donc j'ai créé mon blog Chocolat and Zucchini en 2003, donc après notre retour des États-Unis. Et j'ai été la première française à avoir un blog culinaire. Et en fait, ça reflétait vraiment mon intérêt croissant pour la cuisine et pour l'écriture autour de la cuisine, qui est quelque chose que j'ai commencé à développer quand j'étais aux États-Unis, en fait, parce que je cuisinais beaucoup, que je m'intéressais beaucoup aux différences culturelles entre mon histoire de la cuisine et l'histoire de la cuisine des Américains qui étaient autour de moi, qui venaient de plein d'endroits différents aux États-Unis. Il y avait plein d'ingénieurs d'un peu partout. Enfin, il y avait vraiment une beaucoup plus grande diversité culinaire et gastronomique que le contexte dans lequel moi j'avais grandi. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait énormément et j'ai toujours beaucoup écrit et beaucoup voulu écrire. Et je me suis rendu compte que c'était voilà qu'il y avait plein d'histoires à raconter sur la cuisine et que autour de la cuisine on pouvait aussi enfin c'est un motif récurrent dans mes centres d'intérêt c'est qu'il y a vraiment cette idée que en cuisine en fait on peut tout faire et qu'en fait il suffit de se dire bah tiens j'aimerais bien faire j'en sais rien un fraisier. Et bon, bah oui, je peux faire un fraisier, donc il faut que je me renseigne, comment est-ce que je fais pour faire un fraisier, quelles sont les composantes, etc. Mais il y a cette idée que tout est possible. Et dans un premier temps, dans ma relation avec la cuisine, il y avait cette idée-là, c'est-à-dire je me disais, mais est-ce que je peux faire des bagels? Est-ce que je peux faire une pizza? Est-ce que je peux faire un pain au chocolat? Enfin, et donc, cette idée que tout, voilà, qui suffit en fait de se proposer de faire quelque chose et ensuite de le faire, et ensuite de le manger, ce qui ne gâche rien. Donc, j'ai créé ce blog. Et il a très bien marché rapidement. En fait, je l'ai créé juste avant qu'aux États-Unis on commence à parler beaucoup des blogs de cuisine. Et disons que c'était l'avènement du blog d'une façon générale et l'avènement du blog de cuisine en particulier. Donc il y a eu énormément de couvertures presse aux États-Unis dans lequel mon blog était régulièrement mentionné. Donc il y a eu un bel effet boule de neige de couverture presse, de bouche à oreille, etc.
Parce que tu l'as commencé en anglais, ton blog.
Oui, absolument. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de blog français. Donc, on crée pas. En fait, c'est vraiment, c'est des histoires d'écosystème. C'est-à-dire que personne ne crée un truc tout seul dans son coin. Enfin, je veux dire, si, il en faut forcément un. Mais à l'époque où j'ai créé mon blog, il y avait une douzaine de blogs, mais ils étaient tous tenus par des Américains. Donc, j'étais le 13e blog culinaire au monde. Et il se trouve que moi, j'étais française, mais je voulais faire partie du club des blogueurs culinaires. Donc, c'était en anglais. Et j'ai créé la version française quelques années plus tard, au moment de la traduction en français de mon premier livre de cuisine.
Ok. C'est marrant parce que dans ton approche de la cuisine, j'ai la sensation qu'il y a aussi un aspect très ingénieur, en fait. Tu vois, vraiment très...
Complètement. Tout à fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une composante essentielle quand on écrit des recettes, c'est qu'en réalité, une recette de cuisine, c'est un programme. C'est-à-dire, c'est si il se passe ça, alors faire ça, vérifier que ça, et y a un embranchement, il y a des si, des alors, des tant que, etc. Et donc, c'est vraiment, pour avoir une recette qui fonctionne vraiment, il faut la concevoir comme un programme, parce que sinon, on laisse les gens dans une impasse où on n'a pas prévu le cas où il se passe telle chose. Donc, avoir cette pensée structurée, c'est un plus.
Je n'avais jamais vu comme ça. Ça va, vraiment. Un nouveau monde.
Mais c'est pour ça que beaucoup de recettes ne fonctionnent pas. C'est parce que c'est des recettes qui ne sont pas écrites par des ingénieurs, je suis navrée.
Et donc, tu te lances dans cette... Donc, après la création de ce blog, effectivement, comme tu dis, le marché des blogs, alors d'une manière générale, se structure en France et les blogs cuisine se structurent également. Et tu finis par en faire ton boulot à plein temps, quoi.
Oui, c'est ça. Donc au bout de 2 ans de blog, j'ai démissionné de mon travail d'ingénieur. Donc je travaillais chez un éditeur de logiciels en France parce que j'avais signé un contrat pour écrire un livre de cuisine et que j'avais vraiment besoin d'y travailler, enfin de travailler dessus à temps plein pour me donner les moyens de l'écrire bien. Et donc en fait, c'était un peu l'impulsion, c'est-à-dire je me suis dit voilà, j'ai ce projet, j'ai 1 an pour l'écrire. Et je me suis dit, on va commencer par ça et puis on voit, est-ce que le fait de travailler seule, d'être indépendante, est-ce que ça me convient ? Avec derrière la tête toujours la possibilité que s'il fallait que je retrouve un job dans l'informatique, ce serait pas impossible. Et bon, évidemment, j'ai jamais fait marche arrière. Je faisais régulièrement des cauchemars où il fallait que je retourne dans un bureau. Mais néanmoins, j'en plaisante, mais le passage de j'ai un travail structuré de salarié où on me dit grosso modo quoi faire, où on me dit si ce que je fais c'est bien, etc. Passer de ça à un mode de travail où je suis ma seule validation, où je suis ma seule structure et où je suis mon seul manager, c'est un challenge. Moi, j'avais 26 ans, donc j'étais pas hyper aguerrie à ça. Et ça demande beaucoup de ressources de gérer les hauts, les bas émotionnels, les hauts, les bas de doute ou de confiance. Ça forge le caractère.
Comment t'as fait alors? Est-ce que t'as utilisé des outils?
Alors, à l'époque, je n'avais pas tellement d'outils, donc j'ai beaucoup pleuré. J'en ai beaucoup parlé. Ça marche bien.
C'est un outil comme un autre.
Hein. Accueil des émotions. En fait, je me souviens de cette époque comme étant vraiment les montagnes russes de mes émotions. C'est-à-dire que, en fait, je me sentais très ballottée entre quand on me disait que ce que je faisais, c'est bien parce que j'avais un commentaire positif sur mon blog ou que mon éditeur m'envoyait un signal positif. Je volais dans le ciel. Et puis, dès que je voyais que quelqu'un d'autre faisait quelque chose qui me paraissait mieux que ce que je faisais ou je calais un peu sur quelque chose ou j'étais pas contente de la photo que j'avais faite, bah là c'était reparti en sens inverse et c'était vraiment épuisant de ne pas avoir d'équaliseur émotionnel en fait. Et donc mon équaliseur émotionnel c'était essentiellement mon compagnon maintenant mon mari qui fort heureusement pour moi a un esprit d'entrepreneur et on est très proches et donc je pouvais en parler avec lui etc. Mais ça reste, même si c'est bien sûr très appréciable, ça reste quelque chose qui est extérieur à soi et c'est pas très agréable au long cours de devoir toujours attendre que l'autre rentre ou de lui envoyer un texto pour qu'il nous appelle, pour qu'il nous rassure. Enfin moi, j'aspire à être indépendante et donc ces outils-là me manquaient à ce moment-là.
D'accord. Donc tu disais, ouais, c'est vraiment le travail sur les émotions, mais que tu as fait de façon empirique, c'est ça au départ?
Alors en fait, je pense que j'avais beaucoup de rustines, mais c'était essentiellement mon travail sur les émotions. C'était beaucoup, j'avais pas d'outils. J'essayais de me sentir mieux. Enfin, j'avais vraiment l'impression de, tu sais, j'ai cette image d'essayer de se rattraper aux branches ou, tu sais, à des espèces de roseaux pour essayer de se sortir du trou. Donc c'est essayer de penser à autre chose, aller faire un tour, téléphoner à quelqu'un qui pourra te rassurer, relire des mails sympas qu'on t'a envoyés, tu vois, je veux dire, des choses qui sont très extérieures. Là où plus tard dans ma vie, mais sensiblement plus tard, j'ai fini par comprendre le mécanisme des émotions et le lien entre les circonstances d'une part, nos pensées d'autre part, et les émotions que créent nos pensées. Et si je l'avais su à 25, 26 ans, comme j'ai des auditrices et des auditeurs qui m'écrivent aujourd'hui, qui sont jeunes et qui prennent en main ces outils, et je me dis, mais la trajectoire émotionnelle, quand on apprend ces outils-là en étant beaucoup plus jeune, c'est le jour et la nuit.
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, à l'époque, on n'avait pas, enfin, je m'inclus dedans parce que on a à peu près le même âge, hein, mais on n'avait pas Clotilde qui nous parlait dans le podcast, quoi, pour nous décrypter tout ce genre de truc, quoi.
C'est ça. Et si j'avais compris, en fait, c'est ça l'articulation principale, c'est que on grandit en pensant que nos circonstances créent nos émotions. Et donc, en fait, quand on se sent pas bien, on se dit, c'est à cause du mail que j'ai reçu ou c'est à cause de ce qu'on m'a dit. Et donc, du coup, je me sens mal parce que ce qu'on m'a dit, c'était ça. Et donc, le seul moyen de me sentir mieux, c'est de faire en sorte que la personne n'ait pas dit ça, ça marche pas. Donc, il faut que je remplace ma circonstance par une autre. Il faut que je change ma circonstance. Il faut que je m'arrange pour que les gens me parlent mieux, etc. Et donc, c'est des stratégies forcément perdantes. Alors que si on comprend qu'en fait, les circonstances sont neutres, c'est-à-dire le mail, il est neutre, c'est parce que j'en pense quelque chose, que je l'interprète d'une certaine façon, que j'en tire des conclusions sur moi, sur mon travail, sur mes perspectives, c'est ça qui crée mes émotions. Et donc, d'un coup, on a cet espace de discussion avec soi-même pour se dire, mais pourquoi est-ce que je le prends comme ça? Qu'est-ce que la personne a dit ça? Qu'est-ce que j'entends en filigrane? Pourquoi est-ce que je pense qu'elle a dit ça? Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion sur moi? Et à ce moment-là, on peut avoir un espace où on peut accueillir ses émotions, on peut mieux les comprendre, on peut rediriger ses pensées, on peut remettre en perspective, prendre du recul, etc. Mais ça, si on vous l'explique pas, et c'est ce que j'explique sur Change ma vie à longueur d'épisode, si on vous l'explique pas, moi personnellement, je ne l'avais pas inventé, quoi.
Oui, il y avait pas toute cette vague aujourd'hui de développement personnel qui donne vraiment, qui offre les outils, comme ce que tu fais ou plein d'autres personnes, en fait. C'est vrai que à l'époque, il fallait un peu se débrouiller tout seul, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, c'est quand même une différence générationnelle. Et en plus, je pense que ça dépend des familles, mais dans ma famille, on était aimés, choyés, on s'occupait bien de nous, mais on ne nous parlait pas du tout d'émotions. C'est-à-dire, les parents ne parlaient pas de leurs émotions, on ne parlait pas des émotions des enfants. Enfin, il n'y avait pas de discussion autour de ça. Alors que mes enfants ont aujourd'hui 5 et 8 ans et les émotions font partie on ne parle pas que de ça tout le temps, mais c'est une dimension importante de leur vie, c'est une dimension importante de ma vie et je les y sensibilise, j'essaye de leur donner des clés pour les comprendre, pour comprendre qu'est-ce qu'on en fait quand on les ressent. Enfin, c'est quand même toute une éducation qui ne nous était pas apportée simplement parce que nos parents eux-mêmes ne l'avaient pas reçue.
Oui, c'est clair. Et puis j'imagine qu'avec une famille d'ingénieurs, on n'est pas non plus forcément très, très
focus. C'est ça. Néanmoins, je suis une ingénieure qui parle de ses émotions. Donc les temps changent. Voilà.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
pour revenir un petit peu à ton parcours, mais tu sors une ribambelle de livres en fait, parce que entre, si je me trompe pas, tu sors ton podcast début 2017 à peu près, c'est ça?
Oui, c'est ça, avril 2017, ouais.
Donc il y a quasiment presque 15 ans en fait entre le début de ton blog cuisine jusqu'à le début de ton travail de coach où tu fais grandir ce blog, c'est ça? Tu crées des contenus autour de la cuisine, tu deviens cuisinière et blogueuse à plein temps, quoi.
C'est ça, ouais, auteur culinaire en fait, c'est comme ça que j'appelle le métier. Et donc c'est un assemblage de différentes compétences qui sont mises à profit dans différents contextes. Le cœur de mon activité, c'était le blog de cuisine avec une partie de vente d'espace publicitaire. Enfin, une partie du revenu, c'est la vente d'espace publicitaire. Je faisais un peu de création de recettes pour des marques. Je faisais un peu de conseils en tendance culinaire pour des clients étrangers, puisque étant à Paris et étant anglophone et un peu au courant de voilà des différences culturelles entre les pays, ça les intéressait d'avoir une correspondante à Paris. Et puis ensuite de la publication d'articles, j'avais une rubrique dans À la table, j'avais à un moment une rubrique dans le magazine de l'Eurostar, j'écrivais sur les restaurants, j'écrivais sur les tendances de la cuisine. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux axes, cuisine et écriture, qui étaient les deux fils rouges de mon activité.
Et tu avais aussi des partenariats avec des marques pour faire des contenus sponsorisés sur le blog?
Alors,
déjà à l'époque,
je l'ai fait ponctuellement. C'était pas mon truc préféré. C'était à cause du. Enfin, j'étais plus à l'aise avec l'espace publicitaire qui dit son nom. Alors, bien sûr, les billets sponsorisés, on dit leur nom aussi, mais c'est une posture qui est toujours un petit peu délicate parce que bon, c'est de l'infomercial. J'aimais pas trop, mais j'ai expérimenté un peu en choisissant des marques. En choisissant toujours des marques et des produits que je pouvais mettre en avant en étant alignée avec ce que je mettais en avant. Et puis bien sûr, une partie de mon activité, c'était aussi d'écrire des livres de cuisine. Donc j'en ai écrit 5 qui ont été publiés d'abord aux États-Unis et puis ensuite traduits dans plusieurs langues. Certains sont parus en France, la plupart sont parus en France et puis ont été traduits dans différentes langues. Donc j'ai une série de versions dans différents pays. C'est rigolo de voir les adaptations qui sont faites.
Et en fait, j'ai un peu la sensation qu'il y avait un peu un côté, tu finissais par être un peu la French touch de la cuisine à la française, non? C'est ça dans tes bouquins?
C'est ça, en fait, il y avait vraiment. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où j'ai lancé mon blog, c'était juste après la sortie d'Amélie Poulain. Donc, il y avait un côté. En plus, à l'époque, j'avais une frange assez courte. Donc, l'association était assez rapide, mais il y avait vraiment ce côté, est-ce que j'ai finalement choisi comme positionnement et comme discours vis-à-vis de mes lecteurs et lectrices étrangers à l'époque, c'était vraiment d'être la voix non snob de la transmission de la culture culinaire et gastronomique française. Donc pas snob et pas figée, tu vois, pas confite dans le temps. C'est-à-dire ça m'agaçait beaucoup ces images d'Épinal, cette idée de ce que font les Français, ce que fait la Parisienne, etc., qui sont vraiment clichés. J'ai horreur des clichés, et donc je me proposais de dresser un portrait qui me paraissait plus fidèle, ou en tout cas plus fidèle à mon expérience, parce que faut rester humble, mais quelque chose qui soit plus moderne, qui ressemble plus à la façon dont les Français s'alimentent aujourd'hui, plutôt que l'idée d'aller faire tous les matins le marché, le béret sur la tête et la baguette sous le bras. Parce que il y a un moyen de le vendre encore, ce cliché, mais ça m'intéressait pas du tout.
Oui, j'imagine bien. Ça me fait un peu penser au. J'imagine que tu l'as vu sans doute, ce film Julie and Julia sur la fameuse blogueuse qui se lance dans le travail de. Comment elle s'appelle, Julia
Julia Child. Ouais,
Julia Child, voilà.
Tout à fait, qui reflète toute une époque de la cuisine française, ouais. Mais Auguste Escoffier, Dieu et son âme, ça ne ressemble plus, c'est plus comme ça l'alimentation des Français. Donc elle est pas parfaite, hein, l'alimentation des Français, mais je veux dire la façon dont on mange aujourd'hui, quand on mange bien, c'est pas Escoffier, quoi.
Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui t'incite alors, tu parlais tout à l'heure de ton nouveau rendez-vous chez ta psy à 35 ans après la naissance de ton deuxième. Est-ce que c'est suite à ça que tu décides à un moment donné de te pencher vers ton travail de coach, vers ton métier actuel?
Alors, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est déroulé. C'est-à-dire, je suis allée voir cette psy suite à la naissance de mon deuxième enfant. Chacune de mes grossesses a créé un gros passage à vide à la suite de la naissance. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes et qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais enfin, c'est le sujet peut-être d'un autre podcast.
Le fameux postpartum, enfin le fameux hashtag mon postpartum.
Ouais, c'est ça. Alors, moi, c'était pas tant physique que vraiment émotionnel et psychique. C'est-à-dire, ce changement d'identité, cette matrescence, si on veut utiliser ce mot-là, qui, je pense, nous prend complètement par surprise parce que, alors, je pense que c'est d'une part parce qu'en réalité, c'est très difficile de se le figurer avant de l'avoir vécu, mais aussi que c'est pas la partie la plus glamour ou la plus attirante de l'expérience. Et qu'en plus, on a une injonction de faire comme si, voilà, le rôle de mère, c'était le plus beau rôle de notre vie et que tout ça. Il y a aussi un silence qui règne, alors de moins en moins, hein, on peut s'en féliciter, mais sur le fait que c'est une expérience très contrastée, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on veut beaucoup, mais qui est, dans un premier temps, énormément de contraintes, énormément de sacrifices, énormément de fatigue. Et que ça, si on n'est pas au moins intellectuellement prévenu, on peut être assez secoué. Et moi, par ailleurs, j'ai attrapé un virus pendant ma deuxième grossesse que mon bébé a attrapé dans mon ventre. Donc du coup, c'était une grossesse très surveillée, avec la possibilité que ça se termine pas bien du tout, etc. Et je pense qu'en fait, je suis restée pendant toute la grossesse en mode tout va bien, j'y crois, ça ira bien, jusqu'ici tout va bien, etc. Et puis quand le bébé est né et qu'effectivement tout allait bien, et je remercie le ciel, il y a eu un truc un peu où voilà, toute l'énergie est retombée et c'était un peu difficile de remonter à la surface. Donc du coup, j'ai été accompagnée par une personne qui était super, qui m'a aidée voilà avec un espace de parole, de clarté. Mais dans le même temps, et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduite à mettre un terme à ce suivi, dans le même temps, j'ai découvert le podcast d'une femme américaine qui s'appelle Brooke Castillo, qui a fondé donc cette école de coaching auprès de laquelle j'ai été certifiée, et qui a eu une façon de me faire comprendre ce mécanisme de nos pensées et de nos émotions que je ne l'avais jamais entendu comme ça avant. Si je l'avais entendu, je ne sais pas de qui, mais enfin voilà, ça a été vraiment tout d'un coup, c'est comme si on avait allumé la lumière. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'ai juste besoin de ça, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est vers ça que je veux aller. Et je pense que beaucoup de gens ont besoin que cette lumière, cet interrupteur-là soit actionné pour d'un coup beaucoup mieux comprendre à la fois quand ça va pas, pourquoi ça va pas, s'ils veulent faire quelque chose, comment le faire, s'ils veulent créer quelque chose, comment le créer. Enfin, c'était vraiment comme si d'un coup, on ouvrait le capot et que je comprenais comment fonctionnait le moteur. Et que d'un coup, ah bah oui, d'accord, ok. Maintenant, j'ai compris comment on s'en sert de ce truc.
Comment tu passes d'être, j'imagine, une auditrice de ce podcast, ok, en fait, c'est un truc que j'ai envie d'incarner et que j'ai envie d'être et j'ai envie de me faire certifier coach. C'est pas la même démarche, hein.
Non, c'est pas la même démarche, mais je pense que c'est finalement la même démarche que celle qui m'animait autour de la cuisine. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un quand je m'intéresse à quelque chose, je m'y intéresse vraiment et de façon assez intense. Et pour moi, le fait de s'intéresser à quelque chose de façon intense va de pair avec le fait de le transmettre, de le partager et de l'expliquer à d'autres. Parce qu'en fait, quand tu sais, c'est cette expression, c'est quand on enseigne quelque chose, on l'apprend une deuxième fois. C'est qu'en fait, quand on se propose de partager quelque chose qu'on a compris avec quelqu'un d'autre, ça nécessite de structurer sa propre compréhension, de structurer sa propre pensée. Et ça, c'est une démarche que je trouve très fructueuse. Et pour moi, il y a vraiment un effet démultiplicateur. Par exemple, avec les recettes, c'était j'ai trouvé une très bonne recette, j'ai trouvé une très bonne association de goûts. Donc, j'en profite moi une première fois, je le partage avec mon entourage. Et si je le diffuse sur mon blog et que d'autres personnes le font, le partagent avec leur entourage, reviennent me dire qu'elles l'ont fait, que c'est super, que c'est devenu leur gâteau préféré, etc. Il y a une espèce d'effet de l'impact en fait est démultiplié. Et c'est pareil avec le podcast et avec ces outils de coaching, c'est que j'en vois un tel bénéfice dans ma vie, j'en vois un tel bénéfice sur mon entourage quand les gens sont ouverts à ça, ou même mon entourage qui juste bénéficie du fait que je pense que je suis plus facile à vivre aujourd'hui que je l'étais à une certaine époque, que si ensuite je peux mettre ces outils en main, ces enseignements à la portée accessible d'autres personnes qui peuvent les comprendre, les reprendre à leur sauce, etc., et s'en servir dans leur propre vie, en fait, j'ai vraiment, pour moi, c'est enivrant de me dire, voilà, j'enregistre un épisode de podcast. Bon, là, maintenant, on en est à 163, mais j'enregistre chaque jeudi un épisode de podcast. Et en fait, l'effet papillon qui m'échappe, mais dont je sais qu'il se produit sans que j'aie à faire plus, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est ça qui me, enfin, c'est ça qui me fait continuer et qui me donne envie de vivre, en fait. C'est cette idée que voilà, à mon dernier souffle, je me dirais, bah voilà, j'ai touché toutes ces vies, et ça donne un sens à ce que je fais qui est précieux.
Mais tu as décidé de, en fait, ce qui me marque un peu, c'est que tu as néanmoins décidé de te faire certifier avant ou pendant, en fait, pour lancer ce podcast. Donc c'était, tu avais vraiment aussi un objectif de devenir coach, pas juste de créer du contenu, parce que ce que je sais pas, je pense pas que tu t'es suivi des cours de cuisine, par exemple, tu vois, dans le...
Alors, je l'ai fait un petit peu, mais pas, okay, mais pas de façon très, enfin, j'avais fait une formation, mais non, c'est vrai que sur la cuisine, j'étais plutôt autodidacte. Alors, en fait, sur le coaching, là où c'est particulier, c'est que, enseigner des outils de coaching et coacher, ce sont deux compétences, enfin, deux jeux de compétences qui sont tout à fait différents. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre intellectuellement ces outils et les transmettre, mais ensuite, quand on est face à une personne qui vient avec son propre ressenti, avec sa propre expérience, avec son propre problème, pour accompagner cette personne-là, ce n'est pas la même chose que de juste lui expliquer. En fait, c'est vraiment, je peux te montrer un marteau, je peux te montrer comment on s'en sert, je peux te montrer comment, à quoi ça ressemble quand moi je m'en sers. Mais pour t'aider toi à prendre le marteau, à comprendre comment on s'en sert et à t'en servir pour toi, faire ton propre, fabriquer ton meuble ou accrocher ton tableau, c'est une autre compétence.
D'accord.
Et ça, c'était très important pour moi d'avoir une formation vraiment de qualité, parce que je voulais pas juste discuter avec les gens et leur apporter des bons conseils. C'est pas ça le coaching. Donc, enfin, je veux dire, on peut passer du temps avec les gens. Je veux dire, un espace d'écoute, c'est toujours utile. Mais moi, je voulais être la meilleure coach que je puisse être. Et c'est encore ce qui m'habite aujourd'hui. Enfin, je continue à travailler sur ces compétences, affiner au maximum ma compréhension, accompagner les gens toujours de la façon la plus précise, la plus poussée, la plus puissante, avec une économie de vraiment réduire le processus à son essence. Et ça, il faut être formé, il faut avoir des mentors, il faut être régulièrement, avoir du feedback, avoir des gens qui vous aident dans cette pratique. C'est une responsabilité énorme de coacher les gens. Donc, je veux être à la hauteur de cette responsabilité.
D'accord. Qu'est-ce qui te donne le déclic d'aller voir la Life Coach School, pardon? Parce que t'écoutais le podcast, c'est ça, à la base?
Oui, c'est ça. Alors, c'était une époque où j'écoutais, c'est encore le cas, mais j'écoutais énormément de podcasts de business, de marketing, de créativité, de développement personnel à plein de points de vue.
C'était le début des podcasts 2017, enfin le début de la deuxième vague de podcasts, quoi, vraiment.
C'est ça. En France, c'était vraiment le tout début. Aux États-Unis, c'était déjà quelque chose d'un petit peu plus installé à l'époque. Et en fait, moi, j'avais un métier, je passais beaucoup de temps chez moi à cuisiner, à prendre en photo des plats que j'avais préparés. Donc, tout ce temps mental, il était très disponible. Donc, moi, je peux pas. Enfin, voilà, j'ai besoin de nourriture pour mon cerveau, et donc j'écoutais à longueur de journée des podcasts, donc plein de différents sur plein de sujets différents. Et en fait, très simplement, l'approche de Brooke Castillo qu'elle présentait sur son programme, sur son podcast, et qu'elle enseigne à la Life Coach School, ça me correspondait parfaitement, dans le sens où c'est extrêmement précis. C'est pas du vent, c'est pas, il y a pas 3 milliards de façons différentes de poser la même question. C'est précis, c'est puissant, et donc moi ça m'intéressait beaucoup d'apprendre auprès d'elle.
D'accord. Donc tu te lances dans l'école, c'est ça? Tu te formes?
C'est ça. Donc j'ai fait la certification principale. Donc j'ai été certifiée en septembre 2018. Et puis ensuite, un peu plus d'un an plus tard, j'ai fait ce qui s'appelle le Master Coach Training, qu'il y ait un niveau supérieur de certification. Donc on n'est pas beaucoup à le faire. C'est assez intense. C'est voilà, ça sort de sa zone de confort. Mais pour moi, c'était voilà, c'est vraiment cette idée de voilà de perpétuelle évolution, apprendre, améliorer, affiner, voilà qui et surtout apprendre auprès de personnes que j'admire et qui à mon sens sont plus loin sur le chemin que moi. Ça m'intéresse énormément de me trouver dans ces environnements-là.
Ok, ça consiste en quoi exactement le Master Coach Training par rapport
Alors, c'est un processus qui dure, qui se déroule sur à peu près 9 mois. Et donc, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de, excuse-moi pour l'anglicisme, beaucoup de feedback. En fait, tu coaches, enfin, du coaching supervisé ou tu coaches ou tu supervises ou t'es coaché ou t'écoutes la supervision des autres. Beaucoup d'enseignements de coachs qui sont plus expérimentés que moi et qui présentent des façons, voilà, c'est de la profondeur. C'est se poser plus de questions, des questions plus en profondeur pour voilà, en fait, enfin j'ai pas encore touché le enfin je sais pas s'il y a une fin à l'acquisition de ces compétences et à l'affinement, si c'est un mot, de ces compétences, mais là voilà, ça fait prendre de la hauteur, enfin c'est passionnant.
Je pense pas qu'il y ait de fin, tout comme je pense pas qu'il y ait de fin à l'apprentissage personnel non plus, quoi. Tu vois,
voilà, c'est ça, c'est ça.
Très bien. Donc en fait, si je comprends bien la chronologie, c'est que tu as lancé le podcast à peu près en même temps que tu as commencé la formation, c'est ça?
Alors j'ai commencé par la première année à peu près, non, oui c'est ça, la première année à peu près, j'avais le podcast et j'ai commencé à coacher de façon d'abord relativement informelle et puis ensuite un peu plus. J'avais encore le blog de cuisine, donc je faisais les deux en parallèle. Dans un premier temps, je m'étais dit que je ferais les deux en parallèle, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que fallait choisir et que ce serait beaucoup plus puissant d'avancer avec un seul métier que deux. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai procédé.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans un podcast audio en particulier? C'était l'inspiration de Life Coach School, c'est ça, du podcast?
Alors, comme j'écoutais énormément de podcasts, en fait, ça faisait longtemps que je me disais que c'était un format qui me faisait envie. J'avais d'abord envisagé de lancer un podcast autour de la cuisine. Mais j'en avais d'ailleurs parlé avec une amie de la possibilité de lancer un truc ensemble. Mais mon intérêt pour la cuisine à cette époque-là a commencé à décliner un peu. C'est-à-dire, j'arrivais un peu à un moment de voilà. Je commençais à. Je pense pas que j'en avais fait le tour, mais je commençais à faire un peu le tour de ce qui m'avait intéressé.
J'avais ça faisait 15 envie ans,
quelque
temps.
Chose de nouveau. Ouais, c'est ça. Ça faisait 15 ans. Et aussi le format du blog de cuisine avait pas mal changé. La tournure que ça prenait m'intéressait moins. Et du coup voilà, le format podcast, le format voix, je le trouvais très très puissant dans mon utilisation personnelle. Je voyais bien qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, je me disais, après tout, si ça marche aux États-Unis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Et j'avais l'illusion que ce serait beaucoup moins de travail que de proposer des supports écrits, ce qui n'était évidemment pas tout à fait exact, mais voilà, c'était ça que je pensais. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment... comme je jouais dans ma tête depuis assez longtemps avec cette idée de faire quelque chose autour du coaching, du développement personnel, etc. En fait, les deux envies, le podcast et le développement personnel, se sont emboîtées en un projet. Et j'ai décidé de le faire en français parce que justement, je trouvais que d'une part, il n'y avait pas encore tellement de podcasts en français et je me disais, il y a une offre à proposer là-dessus, et que je trouvais que l'offre autour du développement personnel et du coaching en France correspondait pas à ce que moi je recherchais, en tout cas. Et donc je me disais, si ça correspond pas à ce que moi je recherche, probablement ce que moi je veux apporter correspondra à d'autres gens qui ne se retrouvent pas dans ce qui existe.
Il n'y en a toujours pas des masses d'ailleurs, hein, des podcasts de développement personnel de qualité.
Ah oui, écoute, je ne me prononcerai pas, mais j'avoue que j'écoute essentiellement, j'écoute vraiment presque beaucoup exclusivement des podcasts américains. Donc.
Qu'est-ce que tu as la sensation que ce changement de vie t'a apporté, toi, avec maintenant 3 ans de recul, quoi?
Moi, ce que j'aime énormément, c'est cet alignement en fait entre ce qui me passionne, ce que je fais au quotidien, l'impact que j'ai sur les personnes qui m'écoutent, les personnes avec qui je travaille. Maintenant, j'ai une équipe, donc il y a un impact aussi sur les personnes qui travaillent avec moi, qui me font confiance aussi en s'alliant au projet Change ma vie. Ce que j'adore en fait, c'est cette idée que j'ai eu une vision de ce que je voulais créer, que j'ai poursuivi, que je me suis mise en marche en direction de cette vision. Donc, je continue à l'entretenir et à la faire grandir au fur et à mesure, parce que au fur et à mesure que j'atteins les objectifs que je m'étais fixés, j'ai des visions à long terme. En fait, moi, je crois fondamentalement au coaching comme outil de liberté personnelle, pour vraiment faire en sorte que chaque personne puisse vivre une vie qui est choisie, avoir l'impression de vraiment mettre à profit de la façon qui lui parle à lui ou à elle, mettre à profit son temps, mettre à profit son énergie, mettre à profit sa vie tout simplement. Et en fait, pour moi, le coaching c'est la solution pour mettre ça en place. Et donc je vois la place que peut prendre le coaching en France, et je me propose de développer cette activité là pour que ce soit de plus en plus accessible et de plus en plus normal en fait. C'est-à-dire que maintenant c'est à ce jour encore relativement exceptionnel pour quelqu'un d'avoir un coach personnel, un coach de vie ou même un coach professionnel. Mais aux États-Unis, c'est plus du tout. Je veux dire, ça dépend des milieux, évidemment. Hein, c'est quand même. Mais même pas forcément des milieux. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. De la même façon qu'en France, on commence à s'habituer à l'idée d'aller voir un psy, un thérapeute, quel que soit le format. Mais pour moi, le coaching répond à des difficultés qui sont différentes de celles auxquelles les thérapeutes peuvent apporter des solutions.
Ouais, on y reviendra après, justement, la différence entre coaching et thérapie. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais avec une équipe maintenant. C'est la première fois que tu travailles avec une équipe de tout ton parcours, là.
Alors, j'avais déjà une assistante quand j'avais un blog de cuisine. Enfin, j'ai eu plusieurs assistantes qui m'aidaient dans la rédaction de mes livres, dans la tenue du blog, la création du calendrier de publication sur les réseaux sociaux, etc. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on est quatre, donc c'est la première fois que j'ai une équipe aussi grande, ouais.
Waouh. Alors comment ça se passe?
Très bien, très bien. C'est-à-dire que l'avantage quand on est coach, c'est que on est très bien équipé pour aborder ces phases de croissance, ces paliers à passer. Donc en fait, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on a la clarté de qu'est-ce que je cherche à faire, pourquoi est-ce que cette partie-là, pourquoi est-ce que je me pose des questions là-dessus, dans quel sens j'ai envie d'avancer. Enfin, et pour moi finalement c'est ça l'articulation qui est clé, c'est passer de je suis engluée dans un problème dont je n'arrive même pas à décrire les contours, de passer de ça à maintenant j'ai compris, je comprends pourquoi je ressens une difficulté, je comprends quels sont les tenants et les aboutissants de cette difficulté, et donc je vois se dégager le chemin pour en sortir ou pour avancer ou pour les dépasser.
Tu as la sensation que le coaching et d'être coach fait de toi une meilleure manager au quotidien?
Ah, complètement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Par chance, deux de mes collaboratrices sont coach, elles aussi, et l'autre suit mon propre programme de coaching actuellement. Donc en fait, mais pour moi, en fait, c'est des outils qui sont des outils de, c'est pas juste des outils de coaching, c'est des outils de vie qui permettent en fait à chaque personne de faire la distinction entre ce qui est extérieur, ce qui est intérieur, ce qui est de la responsabilité des autres, ce qui est de sa propre responsabilité. Donc en fait, quand on travaille avec des personnes qui ont une certaine forme d'indépendance émotionnelle, on a beaucoup plus de facilité à se parler, parce que chacune peut parler de quand tu me dis ça, moi j'en pense ça. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus claires quand chacun a cette clarté intérieure. Et c'est la clarté intérieure qui crée la clarté au sein de l'équipe.
Justement, on parlait tout à l'heure de thérapie. C'est quoi pour toi et pour les gens, pour les auditeurs et les auditrices d'Histoire de succès, c'est quoi pour toi la différence entre une thérapie avec un ou une psychologue et un coaching?
Alors, je pense qu'il faut faire attention avec les généralités, parce qu'il y a énormément de types de psychologues, de types de thérapies, et il y a aussi énormément de types de coaching, de types de coach et d'écoles de coaching. Mais moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que la façon dont moi je me figure les choses, c'est que La thérapie est tout à fait appropriée pour des personnes qui sont en vraie souffrance dans leur vie, avec des souffrances ou des difficultés qui les empêchent au quotidien, qui les empêchent de fonctionner. En fait, c'est vraiment des problèmes qui sont vraiment qui les entravent au quotidien dans ce qu'elles peuvent faire, dans ce qu'elles sont, dans ce qu'elles peuvent aborder comme situation, etc. Là, la thérapie c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est presque des situations d'urgence, enfin de souffrance psychique urgente. Le coaching, il est beaucoup plus approprié pour des personnes pour qui, globalement, ça va. C'est-à-dire, elles se lèvent le matin, elles vont travailler si elles ont un travail. Elles peuvent, voilà, elles fonctionnent, mais elles ont l'impression qu'entre la vie qu'elles sont en train de vivre et la vie qu'elles s'étaient imaginée ou la vie à laquelle elles aspirent, il y a un différentiel dans lequel elles se posent beaucoup de questions, dans lequel il y a beaucoup d'insatisfaction, d'interrogations, de doutes, de comparaisons, etc. Et là, le coaching est tout indiqué parce que le coaching, il est très tourné vers les solutions et tourné vers l'avenir, vers la suite. Et donc, ça permet de se dire, bah, voilà où tu en es. Qu'est-ce qui te convient dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te convient pas? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Où est-ce que tu as envie d'aller? Comment est-ce qu'on peut faire pour, en fait, vraiment aplanir le terrain au maximum? Pour que tes relations soient plus apaisées, plus sereines, plus authentiques, pour que tu te sentes en mesure d'aller au-devant de tes projets, de construire les choses que tu veux faire, que tu sois pas paralysé par la peur, le doute, l'incertitude, etc. Et donc, en fait, c'est finalement prendre des personnes fonctionnelles et les rendre super fonctionnelles. En fait, si on fait la comparaison avec un coach sportif, c'est ça. Si on prend un sportif ou une sportive qui sait taper dans un ballon, qui sait boxer, qui sait faire manier son épée ou son truc d'escrime là, mais c'est juste qu'on va l'aider à vraiment mettre le plus à profit son temps d'entraînement, affiner ses gestes, l'aider à gérer son énergie, l'aider à gérer son mental, l'aider à gérer, etc. Et donc, on peut très bien faire de l'escrime ou du foot sans avoir de coach, mais si on veut être un excellent footballeur ou une excellente footballeuse, le coach est indispensable parce que lui, il a un regard ou elle a un regard sur la discipline, sur ce qu'on fait, sur ce qui est possible. Et aussi, c'est aussi cette idée de tenir pour les gens la vision de ce qui est possible parce que chacun de son côté, on a tendance à se brider dans notre imagination, à se brider dans ce qu'on peut envisager pour nous, ce qu'on s'autorise à penser de nous, etc. Et donc le coach ou la coach permet de repousser un peu les murs et de dire bah pourquoi ça, si tu penses que c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment pas possible, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible et pour qui est-ce que c'est possible, enfin voilà, poser des bonnes questions pour en fait moi j'y pense, c'est pour des gens qui se sentent coincés dans une vie qui est trop petite pour eux. Comment est-ce qu'on fait pour élargir les contours de sa vie pour qu'ils se disent ah ben voilà, on respire, voilà une vie qui est à la mesure de ce que je voulais pour moi.
J'avais la sensation aussi que le coaching était défini dans le temps, mais peut-être que je me trompe, où tu as un certain nombre de séances et après à la fin de cette
alors c'est plutôt enfin il y a encore une fois il y a plein de modalités de coaching, ça peut être donc nous le programme principal qu'on propose qui s'adresse à des femmes qui travaillent, qui ont des enfants et qui cherchent à trouver ce point d'épanouissement dans cette vie qu'elles ont choisie mais dont elles n'arrivent pas tout à fait à profiter, voire pas du tout à profiter. C'est un programme qui se déroule sur 6 mois pour leur mettre en main des outils qui vont leur servir ensuite toute leur vie. Donc, c'est délimité dans le temps, dans le sens où on travaille ensemble pendant 6 mois, mais ce n'est pas délimité dans le temps, dans le sens où ce qu'on apprend et ce qu'on met en place pendant 6 mois de coaching, si on arrête à 6 mois plus un jour, on en perd les bénéfices aussi. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, mais l'idée, c'est de poursuivre ensuite avec ces bonnes questions, avec ces bonnes pratiques, avec cette façon de se poser sur des problèmes pour démêler la pelote et trouver les solutions. Et ça, en fait, ce sont des compétences de gestion de sa vie intérieure qui seront, enfin, c'est comme se laver les dents, quoi. C'est une compétence de gestion de son hygiène dentaire. Et je veux dire, on peut vous l'apprendre une fois, mais faudra vous proposer de vous laver les dents toute votre vie si vous voulez garder la laine fraîche et les dents blanches, quoi.
C'est pas faux. C'est un excellent conseil de coaching, merci Judith.
Et voilà.
Je me demandais en fait, qu'est-ce que tu dirais toi aujourd'hui, tu disais que tu avais 41 ans, à la Clotilde un peu perdue de 15 ans, qui savait pas trop où aller.
Je lui dirais qu'elle a raison de penser que voilà qu'elle va quelque part et que voilà. Enfin. En fait, j'avais l'impression d'être différente des autres et j'avais l'impression que c'était quand même moi qui avais raison. mais en fait, le problème, c'est que quand on est seul avec sa vision qui paraît, sa vision du monde ou son regard sur les choses qui sont différents de ceux de notre entourage, on a tendance à penser, bah, si la majorité pense différemment de moi, c'est sans doute que eux ont raison et que moi j'ai tort. Et en fait, c'est pas que les autres avaient tort, mais c'est que moi j'avais, enfin, que eux avaient raison pour eux et que moi j'avais raison pour moi. Et qu'en fait, cette idée de, d'être, voilà, d'avoir un regard un peu différent, une façon de réfléchir un peu différente, des aspirations un peu différentes, une façon d'avancer dans la vie un peu différente, c'était pas un problème. Et que c'était pas en essayant de faire plus comme eux que ça allait, enfin voilà, que ça allait aller mieux. Okay. Mais bon, après, quand on a 15 ans, on est quand même très intéressé par la conformité et essayer de, voilà, de surtout pas avoir l'air, enfin voilà, l'appartenance au groupe, la similitude avec le groupe, c'est quand même, donc je lui dirais pas de faire quelque chose de différent, mais je la prendrais dans mes bras en lui disant, voilà, ton heure viendra. Quand tu seras vraiment sorti de cette adolescence et que tu seras vraiment indépendante, tu verras, tu pourras faire exactement ce que tu veux et ce sera top.
Ouais, c'est cool. Si tu avais un conseil à donner sur, aux auditrices et aux auditeurs d'Histoire de succès sur ton parcours, le truc que tu retiens, toi, aujourd'hui, de ces 25 ans de vie.
Alors, je pense que le truc que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment l'importance de se donner, de définir une vision, de la nourrir, une vision de ce qu'on veut, de la nourrir et ensuite de se mettre en marche vers cette vision. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas de vision et qu'on n'a pas de clarté sur comment faire pour aller au-devant de cette vision, il y a zéro chance d'arriver à aller là où on veut aller, à être qui on a envie d'être, à créer ce qu'on a envie de créer. Donc vraiment, c'est cette idée et pourtant tout joue contre nous en fait. C'est-à-dire que tout dans notre environnement crée le doute, crée la comparaison, crée la distraction. On est assailli de toutes parts par les notifications, les trucs. Et en fait, si je peux donner le conseil qui est de se réserver un temps, de vraiment créer une pratique dans laquelle on se parle à soi-même, on s'écoute soi-même, on apprend à se connaître soi-même, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, à quoi on aspire, qu'est-ce qui nous rend vivant, enfin, qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants ou vivantes, etc. C'est cette conversation-là qui est à la base de tout. Et je pense que trop peu de gens créent cet espace-là. Et il faut le créer parce que sinon les priorités des autres, les notifications et les algorithmes des réseaux sociaux se mettent dans cet espace. Donc c'est l'espace le plus précieux, mais il faut le créer, il faut le défendre.
Tu parles aussi pas mal de méditation, si je me trompe pas, d'une manière générale, à la fois sur tes réseaux. Comment t'en es venu à cette pratique de la méditation?
Alors pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très très complémentaire de ma démarche de coaching, parce qu'en fait finalement la méditation, c'est un temps pendant lequel on essaye de prendre du recul par rapport à ses pensées, donc prendre du recul par rapport à son esprit et la roue du hamster dans laquelle il est toute la journée. Et donc en fait pour moi ce sont des expériences qui sont, enfin des pratiques qui sont complémentaires. J'ai aussi une pratique de connexion à ce que j'appelle ma voix intérieure, donc une pratique d'essayer en fait de me connecter à la partie de moi qui n'a pas peur, la partie de moi qui ne doute pas, la partie de moi qui est pas préoccupé par le court terme, mais voilà, qui voit les choses avec plus de hauteur et plus de perspective. Et ça ressemble à une pratique de méditation qui me permet en fait de me reconnecter à ce qui est vraiment vrai et essentiel pour moi. Et donc voilà à quoi ressemble ma pratique de méditation. Et donc dans certains de mes programmes de coaching, il y a une partie où je fournis des méditations guidées qui sont complémentaires de ce qu'on met en place avec les outils de coaching.
Ok. T'as des projets particuliers à venir, parce que je me disais, mais Clotilde n'a pas sorti de livre sur le développement personnel, que se passe-t-il?
Non. En fait. tu vois, en fait, c'est cette idée que le podcast, c'est mon outil d'enseignement, c'est mon outil de diffusion des outils. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est le coaching. Et en fait, un livre de coaching, ça n'existe pas, parce qu'un livre de coaching, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas des, c'est pas. Et donc, en fait, j'écrirai sans doute un livre en lien avec ces outils. J'ai pas encore défini quel était le format, le sujet, le voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de livres. Enfin, il y a déjà beaucoup de livres, Et du coup, j'ai pas envie juste de faire un livre pour faire un livre. J'ai déjà écrit des livres, j'ai déjà publié des livres. Donc cette partie-là, enfin, je veux dire, c'est super chouette. Mais pour moi, juste écrire un livre, ça n'a pas de sens. Je veux vraiment que ce soit un livre qui fasse une différence, qui apporte quelque chose de vraiment, voilà, qui mérite le papier pour l'imprimer. Et donc je laisse décanter ça. Mais comme projet important, on lance là début 2021 un nouveau programme de coaching qui sera ouvert à une cible plus large que aujourd'hui notre programme de coaching il s'adresse aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants, mais l'auditoire du podcast est bien sûr beaucoup plus large que ça, et donc on prépare un programme qui permettra d'apporter des solutions justement aux personnes qui veulent aller au-devant de leurs objectifs, veulent vraiment se mettre en action en direction de leurs objectifs, mais qui se sentent coincées empêtrées dans leur doute, dans la peur, dans la procrastination, etc. Donc on va leur proposer quelque chose de puissant autour de ça.
Ok. Bon ben merci beaucoup Clotilde. Je mettrai les liens dans les notes. Sans doute vous connaissez Change ma vie. Je veux dire ton podcast est toujours dans le top du game d'Apple Podcast. Donc forcément vous avez dû tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Il y a le visuel, c'est très simple. C'est la photo de Clotilde en rose. On peut pas le rater globalement.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper intéressant. Je mettrai tous les liens donc dans les notes pour te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, je te remercie beaucoup.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit. Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.